ערב טוב, אדם נכבד.
ערב טוב, קהל נכבד. תודה רבה. J'essaie de me mettre debout pour voir un petit peu plus. J'ai décidé aujourd'hui, Bezrat Hashem, de vous parler de deux notions qui s'appellent Léa et Rachel. Bien entendu, ces notions ne sont pas seulement des personnages bibliques. Il s'agit de deux niveaux de conscience, de deux niveaux d'appréhension de toute la réalité dans laquelle nous sommes. Ceux qui n'arrivent pas à voir le Léa, le degré de Léa, tombent dans le piège de la dépression et de la déprime de tout ce que nous voyons aujourd'hui, et précisément dans la charnière, dans la période charnière de la rédemption totale de la Géoula dans laquelle nous sommes. Le Zohar nous avertit d'avance et nous dit que seuls ceux qui comprendront le secret, c'est-à-dire qui apprendront, qui étudieront la Torah dans tous les sens qu'elle présente, pourront voir la réalité, pas seulement dans les faits que cette réalité nous offre, au niveau des journaux et des informations, mais pourront aussi comprendre le sens profond de tous ces événements. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi, et en même temps ça tombe dans les parachutes de cette semaine, de parler donc de Rachel et de Léa. Et je vous ai écrit un texte pour ce cours, pour essayer de décoder un petit peu ces deux notions, ces deux mondes, qui sont représentés par deux femmes, par deux sœurs, dans la Torah. Alors, je lis, et en même temps, vous lisez avec moi, c'est très important, les sages nous disent que les lettres hébraïques rendent sages. Otiot Markimot. Il vaut mieux lire, même si on ne comprend pas tout de suite, j'essaye de traduire, j'essaye de faire descendre ces notions à un niveau qui soit compréhensible. Bnei ha'avot Abraham, Yitzhak et Yaakov mechunim etzel chazal ha'avot ashniim. Les sages appellent, nomment les enfants des patriarches comme étant les papa numéro 2. C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement affaire à des pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, bien entendu à des mères aussi, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, mais toutes les descendants, tous les enfants s'appellent en réalité papa 2. Pourquoi c'est important? Ben tout simplement parce que la Gemara nous dit qu'on n'a pas le droit d'appeler papa, si ce n'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov. L'Agmara nous dit que c'est un code. Mais, étant donné que les enfants aussi ont joué un rôle d'adaptation sur terre de ses pères, eh bien on ne peut pas négliger aussi l'existence des enfants, qui par rapport à nous sont encore des pères, même s'ils ne le sont pas directement à proprement dit. Vehine, maintenant dans cette famille d'enfants, dans ces familles qui ont, ces trois familles engendrées l'ensemble du peuple d'Israël, il existe des différences. Vehine, les Umat Mishpechot Abraham et Yitzhak, par rapport aux familles de Abraham et d'Yitzhak, Bahen Yeshrak Em Achat, dans lesquelles il n'y a qu'une seule maman. Sarah pour Abraham, Rivka pour Yitzhak. Ben Mishpachat Yaakov, dans la famille de Yaakov, qui elle va être réellement la source du peuple d'Israël, Hamatav Istaber, la situation se complique. Ekev Nisuav im Lea Verachel, car Yaakov épouse deux sœurs, alors qu'il est interdit d'épouser deux sœurs dans la Torah, mais il s'agit d'une époque qui précède cette interdiction, et par rapport aux Zohar, qui est en fait le sens secret de la Torah, c'est très important d'épouser ces deux sœurs, pas dans le niveau humain, une sœur et une autre sœur, mais on va tout de suite voir que le Zohar considère Léa et Rachel comme deux mondes qu'il est nécessaire, important d'épouser. Pourquoi faire? Pour être un conducteur entre ces deux mondes. C'est-à-dire que Yaakov va servir d'intermédiaire entre Léa et Rachel. Donc on va comprendre qui est Léa et qui est Rachel et quel est leur rôle.
Ils sont complémentaires, c'est ça que...
Elles sont complémentaires. Mirech yeshno echrach Elohi ganus. Donc apparemment, il est une obligation divine, cachée, chez Beit Israël, que la maison d'Israël, et quand on dit maison, c'est une femme, immédiatement, car maison égale Beit égale femme, en Beit ela isha, nous disent les sages. Donc la maison d'Israël s'appelle aussi la femme, car c'est une épouse, car son rôle est de dévoiler. Et là aussi, je m'arrête une seconde, le rôle de la femme, c'est, d'une manière générale, et essentiellement, de dévoiler, de révéler quelque chose. C'est-à-dire que la femme a une potentialité de prendre une graine et d'en faire un bébé. Elle a le potentiel de prendre une notion et de la développer. Donc, le côté féminin est très important. Pas seulement chez les femmes que vous êtes, mais même chez les hommes, la capacité à prendre une idée et de la développer, c'est déjà un degré féminin. Par exemple, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est plutôt ma femme qui révèle, alors que c'est l'homme qui est en moi qui pense. C'est-à-dire que j'ai une idée à vous faire passer, mais je ne peux pas faire passer cette idée sans la femme qui se cache à l'intérieur de moi. Et si je n'ai pas rencontré cette femme, si je n'aime pas la femme qui est en moi, je ne peux pas faire passer aucun message. Ce n'est pas possible. Parce qu'un homme qui n'a pas découvert ce côté féminin est bloqué même dans son expression. Car seulement la femme peut exprimer. Ex, c'est sortir de l'extériorité, de l'intérieur vers l'extérieur, comme exister. Is et ex, sortir en réalité l'existence. Et ça, c'est la femme. Donc la maison d'Israël doit faire révéler quelque chose. Ce n'est pas un ensemble d'individus, un club. C'est tout simplement une notion globale, divine, qui a été créée comme une femme dont le rôle est de révéler son homme. Et l'homme dans cette, dans ce nouveau programme, c'est l'Éternel lui-même. Donc, nous jouons par rapport à l'Éternel le rôle de la femme. Donc, il fait passer sa graine, entre guillemets, chez la femme que nous sommes, dans la femme que nous sommes. Il nous féconde. Et nous sommes enceintes de sa parole et nous donnons naissance à un bébé qui va s'appeler d'une manière générale le messianisme, c'est-à-dire Israël va donner un message au monde qui vient des valeurs du divin. Mais sans avoir été fécondé, Israël ne peut pas faire passer ce message. Or, pour féconder ce message, Israël doit être un. Et c'est pour ça que la femme, avant de reprendre contact avec son mari, doit passer au mikvé. Le mikvé, c'est pas seulement un bain rituel, vous le traduisez en français, c'est sympathique, mais ce n'est pas ça du tout. C'est un bain de l'unicité. C'est pour redevenir un. Car en hébreu, mikvé vient du mot tikva, l'espoir, et qui en réalité, les kavot en hébreu, c'est pas seulement espérer, mais c'est redevenir un. Donc, la femme devient un avant de retrouver son homme. Sinon, c'est une explosion de l'esprit, chas v'shalom, et ça peut arriver à des déviances mentales, psychiques. Et donc, à chaque fois, il faut retrouver cette unité dans l'être que nous sommes. Sinon, on est dans la dispersion totale. La même chose par rapport aux événements que nous sommes en train de vivre maintenant. Si vous n'arrivez pas à voir un dénominateur commun, un fil conducteur de tout cela, et bien vous tombez dans une explosion de l'être, et dans un yéhouch, c'est-à-dire dans un désespoir total, qui est l'inverse de la tikva. Car le mot tikva veut dire unicité de l'être, et yéhouch veut dire en-ish, il n'y a plus d'homme. C'est l'inverse de iyush en hébreu. Iyush veut dire mettre des hommes dans un endroit, les ayesh. Et les yaesh, c'est rendre dans un désespoir. Donc, en réalité, toutes nos fautes viennent d'une mauvaise vision de cette unicité. Et toutes nos libertés, toutes nos libérations, en réalité, viennent dans les retrouvailles de l'être que je suis, et d'une manière globale, dans le peuple que je suis. Et quel est mon rôle ? Aujourd'hui, nous avons oublié notre rôle, et c'est pour ça que nous tombons dans des considérations humaines, logiques, mais qui ne sont pas dans la logique divine que nous devons traduire. C'est comme si la femme que nous sommes, au lieu de dévoiler les valeurs de son homme, est en train de dévoiler d'autres valeurs qui sont d'un autre niveau, très très bas. Alors que nous avons été créés pour une seule chose, pour révéler des valeurs que les autres hommes ne connaissent pas. C'est que Israël, seulement Israël, qui a reçu ces valeurs. Ces valeurs, nous les avons reçues au mont Sinaï. Donc, lorsqu'une nation veut recevoir un message du divin, cette nation s'adresse automatiquement à Israël. Si Israël ne sait plus le message qui lui incombe, elle a un problème. Et donc, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites là? Vous devez être capable de me dire exactement ce pourquoi vous avez été créé. Et pourquoi vous faites partie de cette nation? Pourquoi vous êtes venu habiter ici? Si vous ne comprenez pas cela, il y a un problème. Et c'est ce genre de problème qu'il faut régler aujourd'hui pour être capable de recevoir la lumière céleste. Car la lumière céleste est en train de descendre, et lorsque nous n'avons pas les ustensiles pour la contenir, cette lumière, eh bien, au lieu que cette lumière nous fasse du bien, elle nous explose. Car il y a un déphasage entre la lumière et la qualité du réceptacle. Ce que vous devez faire, ce que vous nous devons faire aujourd'hui, c'est renforcer le nagad. Le nagad, c'est-à-dire la résistance. Car Dieu fait passer une lumière infinie. Si votre résistance est petite, vous allez à chaque fois péter un câble, excusez-moi l'expression. Parce que votre résistance ne résiste pas à cette lumière. Alors comment construire cette résistance? Bien tout simplement en réétudiant, en revenant à notre véritable source. Et notre véritable source, attachez bien vos ceintures, ça va vous faire peur, c'est d'être prophète. Al tigou bim shichai ou bim vi'ai al tareu. Dieu dit aux nations du monde, ne touchez pas mes messies, vous êtes tous des messies de Dieu. Ou bien viaï, vous êtes tous des prophètes. Altareu, ne leur faites pas de mal, dit Dieu aux nations du monde. Ça veut dire que Dieu nous considère comme des messies et comme des prophètes. Traduction réelle de la chose, pas des choses à planer. Ceux qui savent traduire mes données divines pour les faire passer au monde. C'est pour ça que vous êtes là. Et donc à chaque fois que vous ne jouez pas votre rôle, on va vous appuyer là où ça fait mal, pour vous rappeler qui vous êtes. Et donc il y a ici une obligation divine, chez Beth Israël Ibané derrière Shtei Imahot, que la maison d'Israël soit construite par deux mamans. Obligatoire. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi cette famille est double. Parce que c'est pas évident. Deux mamans pour un peuple. Pour Moshe Katou, comme il est écrit dans Ruth, au chapitre 4, que Rachel ou que Léa, ces deux mamans, ont un code dans la Torah, elle s'appelle Rachel et Léa. Asher banu shtehem et Beth Israël. Et à elles deux, elles ont construit, elles ont édifié la maison d'Israël. Donc j'arrête pour l'instant. Première donnée, Israël a besoin de deux mamans, Rachel et Léa. Le texte, sympathique, mais maintenant, que se cache-t-il derrière ce texte? Pourquoi la Torah vient m'enseigner qu'est-ce que c'est que Rachel et qu'est-ce que c'est que Léa? Alors regardez bien, allez. Amidgash Arishon ou Im Rachel, la première femme qu'on va rencontrer, en tout cas que Yaakov va rencontrer, c'est Rachel. Pourquoi? Déjà, vous avez une première notion, Rachel est en réalité le monde que l'on voit, que l'on peut toucher.
Concret.
Et donc, la première rencontre, c'est avec Rachel. Et je vous ai cité le texte, Vayehi ka'asher ra'a Yaakov et Rachel. Yaakov, quand il marche, il voit Rachel en premier. Je vous traduis ça maintenant avec une notion profonde. La première chose que je vois chez quelqu'un, ou dans une situation quoi, c'est l'information qu'on me donne. Je n'ai pas encore approfondi le message. On me montre une image. Je suis bloqué par la première image. Dès que vous êtes bloqué par la première image, vous êtes pour l'instant chez Rachel. Écoutez bien ça. N'importe quelle information, la première fois que vous avez vu quelqu'un, vous avez vu le côté Rachel. Vous, messieurs, quand vous avez vu votre femme, la première fois, vous avez vu Rachel. Et la même chose pour les femmes. Deuxième degré, Amikash Abitissahou, écoutez bien maintenant, il y a une rencontre qui n'est pas prévue, préparée par l'homme. Haba Harazi, il vient toujours en second plan, où il est avec Léa. Cette rencontre, elle est avec Léa. Et je vous cite aussi le texte de la Torah, Vayehi Baboker, et le matin arriva, et Yaakov, en pensant qu'il était avec Rachel, et il se trouve avec Léa. Alors bien entendu, ceux qui restent au premier degré de la Torah, ils se disent, on l'a embrouillé. Et on lui a collé une autre femme, il croyait qu'il était avec une, il était avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah est beaucoup plus profonde que cela, il ne faut plus rester au premier degré, Rabotai. Ça veut dire tout simplement que lorsque tu es dans la nuit, et la rencontre de Yaakov avec Rachel, c'est le soir. Le soir, il la voit avec son aspect superficiel, extérieur. Donc il voit la Rachel. Mais le matin, Boker, qu'est-ce que c'est Boker? C'est quand tu peux déjà voir les choses. Boker en hébreu, ça vient du mot Bakara. C'est-à-dire, je peux contrôler. Et lorsque je peux contrôler la chose, c'est-à-dire, je peux le voir réellement, le vrai sujet, je m'aperçois que ce que j'ai vu hier soir comme étant Rachel, en réalité, c'est Léa. Est-ce que Rachel a disparu pour autant? Non. Il n'y a pas marqué, on m'a embrouillé. Non, j'ai vu Rachel, mais en réalité, je m'aperçois qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur de Rachel, et c'est un autre monde, c'est Léa.
La perception, tous les chats sont gris.
Exactement.
Oui, tous les chats sont gris.
Est-ce qu'on peut éteindre le masgan? Parce que sinon,
mais
on
ouais,
est éclaté là.
Tout à fait, tout à fait.
Il y a un
moi, je commence à voir ce que... C'est intéressant.
Alors, je vous raconte une histoire.
C'est nouveau, c'est nouveau.
C'est tout nouveau. Il y avait un chat qui était sur un mur, et il y a deux Bakhouri et Shiva qui le voient de loin, et un dit c'est un chat, l'autre il dit non, c'est un corbeau. Lorsqu'il dit, on se dit que c'est un chat, il dit non, c'est un corbeau. Il dit, c'est sûr, non, c'est un chat, c'est un corbeau, c'est un chat, c'est un corbeau. Il fait comme ça. D'un coup, il vole, il dit, oh là là, j'ai jamais vu un chat voler. C'est-à-dire, il y a des gens qui, en réalité, sont dans le déni. Jusqu'au bout. Dans la perception qui n'est pas vraie. Hazor HaKadosh. Maintenant, on approfondit un petit peu le message. Le Zohar nous dit, Mechanet le et Rachel, il va traduire Rachel en étant Alma de Itgalia, le monde du dévoilement, le monde réalisé, le monde révélé. Et Léa, et le Zohar va considérer Léa comme Alma de Itkatia, le monde du Kisouï, le monde caché. En réalité, c'est notre monde à nous. Il a une phase dévoilée qui s'appelle Rachel et une phase cachée qui s'appelle Léa. Quand vous rentrez en terre d'Israël, généralement, ce que vous rencontrez, c'est Rachel. Et ceux qui restent au niveau de Rachel en Eretz Israël ne restent pas longtemps. Parce qu'ils n'ont pas découvert le Léa qui se cache à l'intérieur de la terre. Donc les gens ne sont pas sympathiques, il n'y a pas de bon restaurant, les gens n'ont pas de service, les gens de machin, et ils commencent à râler sur tout. Ça, c'est l'aspect Rachel. Et d'ailleurs, les explorateurs, lorsqu'ils sont arrivés en terre d'Israël, ils ont dit, la tour est Haaretz. Moshe leur a dit, allez voir ce qui se passe à l'intérieur, la tour est Haaretz. Et eux, ils ont été, et c'est le texte, Rechov Levo Hamat, dans un endroit qui s'appelle Rechov Levo Hamat. Or, le Arizal nous dit, Rechov Levo Hamas, initial Rachel. Ils ont vu que Rachel, alors que Moshe leur a dit, la tour est Haaretz Léa. Moshe les a envoyés voir Léa de la terre, et les explorateurs n'ont vu que Rachel de la terre. Et aujourd'hui, c'est pareil. Vous regardez les informations, vous ne voyez que le rachel, que l'aspect superficiel extérieur. Donc vous tombez dans une dépression, dans une déprime, très de shalom.
Rachel, c'est l'extériorité.
Exactement. Rachel, c'est Poteach et Yadecha ou Masbia Lechol Chai Rasson. Rachel. C'est ce que je reçois. Lechol Chai Rasson. Qui voit Léa? Léa, comment est-ce qu'elle est décrite dans la Torah? Ve'eine Léa Rakot. On ne voit que ses yeux. C'est-à-dire qu'il y a déjà le monde d'une vision profonde. Alors que Rachel, ve Rachel Aïta, yefas Tohar, ve yefas Maré, on dit qu'elle était belle. Vous voyez, ce sont deux mondes. Léa représente l'œil. Vous savez que les mois de l'année correspondent aussi à des membres du corps humain. Il y a trois mois dans l'année qui correspondent aux yeux. Tevet, dans lequel nous sommes, Tamouz et Av. Les trois mois les plus difficiles dans le calendrier hébraïque. Ce sont les trois mois où la maman de Moshe l'a caché. Elle n'a pas voulu le dévoiler. Je vous donne l'explication. Pendant ces trois mois, et nous y sommes dans l'un d'entre eux, c'est bête, la chose la plus dangereuse, c'est de mal voir la réalité. De mal juger par vos yeux les événements que vous croyez voir. Parce que vous ne voyez qu'avec les yeux de la chair. Et donc, la correction de ce mois, c'est la correction du mauvais œil. Pas le Aïnara comme vous avez l'habitude chez les pieds noirs, l'Aïnara. Il m'a fait le mauvais œil, il m'a jeté un œil. On jette aucun œil, il n'y a rien à jeter. Le mauvais œil, c'est tout simplement avoir une mauvaise vision des choses. À chaque fois que tu vois quelque chose, tu vois le mal et pas le bien dans cette chose-là. Pose-toi des questions. C'est tout le temps un râleur. Dès que tu vois quelque chose, tu râles sur cette chose-là. Tu ne vois jamais l'aspect qui est bien, tu vois toujours l'aspect négatif. Faites la mesure de cette vision que vous avez sur la vie. Et voyez combien de pourcentage vous avez dans le sens négatif. Et alors là, vous êtes Chas v'Shalom parmi ceux qui ont un Aïn Hara, un mauvais œil. Ils voient toujours le mal. Et faites le calcul pour savoir si vous êtes dans le Aïn Tova. Si vous êtes d'un côté, passez vite de l'autre, c'est la correction du mois de Tevet. C'est pour ça qu'on l'appelle Tevet. Rendez tout bien, Tov Tevet. Bonifiez. Arrêtez de voir le mal. Je continue. Mais Pnimiut Advarim, à l'intériorité des choses, Léa Kodem et Rachel. Léa précède Rachel. Pourquoi? Parce que le monde de l'intérieur, il est avant celui que tu vois. Quand vous voyez un bébé naître, vous voyez son aspect extérieur. Mais la Neshama, elle existait avant que le bébé soit ici en chair et en os. Il y avait la Neshama de ce bébé, il est d'accord? D'accord? Mais la Neshama, on ne la voit pas. Parce qu'on ne voit les choses que lorsqu'il y a un vêtement. Donc le vêtement dans ce monde précède l'homme. Et donc Rachel dans ce monde va précéder Léa. Et le monde de Léa est un monde supérieur, un monde profond. Alors que le monde de Rachel est un monde dévoilé, révélé. Rachel Machlit Lavan, donc Lavan, l'araméen, qu'est-ce qu'il décide de donner à Yaakov? Léa avant Rachel. Alors dans votre premier niveau de lecture, Lavan c'est un méchant. Le Zohar nous dit que Lavan c'est la blancheur, la candeur, c'est Dieu lui-même. Et il nous donne ici en réalité la leçon. Faites attention, sachez que Léa précède Rachel. On ne peut pas faire passer l'une avant l'autre. Donc de facto, tu vas recevoir Léa avant de recevoir Rachel, même si tu t'appelles Yaakov. Car Yaakov, toi tu fais le lien entre deux mondes. Et tu ne peux pas commencer par le monde matériel. Tu es obligé de commencer par un monde supérieur. Et là c'est la différence entre le judaïsme et une religion. Les religions, elles commencent par un aspect inférieur. Le judaïsme, c'est un don de Dieu, c'est le don de la Torah. Ça vient de l'infini, béni soit-il. C'est pas moi qui gère ça. Et si tu ne comprends pas que ça vient du haut vers le bas, eh bien ta vision sera toujours du bas vers le haut, donc de la superficialité, tu vas essayer de comprendre le sens profond. Mais ça ne marche pas. Parce que tu commences à l'envers. Et justement, tu vas arriver au maximum à un degré cérébral de ta propre conscience, c'est-à-dire la philosophie, qui est toujours humaine.
Mais je suis d'accord avec toi, il n'a pas trompé la dame. Parce que c'était la tradition dans la famille.
Je suis d'accord.
Il aimait se marier d'abord.
Je suis d'accord. Ça, c'est dans le premier sens de la Torah. Là, c'est le premier sens de la Torah. C'est vrai.
Ouais.
Et c'est vrai. Mais là, je suis en train de parler de l'essence de la Torah. Et la vanne, donc, n'est plus le personnage qu'on connaît,
ouais.
Ça devient le blanc. Qui est le blanc, c'est-à-dire celui qui n'a pas de couleur, Dieu lui-même. Okay.
Le blanc n'est pas un mélange de toutes les couleurs.
Non, c'est la source de toutes les couleurs. Le noir, c'est le mélange de toutes les couleurs.
Ça peut tromper, le blanc.
Exactement. Ça peut tromper. C'est pour ça qu'en réalité, il faut savoir que ce Lavane qui, en fait, se déguise en quelqu'un de très élevé, lui, dans le premier sens, c'est un tordu. Mais dans le sens profond, c'est Akadosh Baruch Hu. Et je vais rajouter quelque chose. Même quand quelqu'un fait quelque chose dans ce monde, sachez que le patron est derrière. Lavane ne peut pas agir tout seul. Nos ennemis aujourd'hui ne peuvent rien faire tout seul. Ils sont là pour nous réveiller à quelque chose qu'on a peut-être oublié.
Alors, il y a un moment où on n'a pas été trompé, puisqu'il était censé savoir qu'il devait recevoir Léa avant.
Tout à fait. Et Yaakov, qui c'est Yaakov? C'est toi et moi. Le problème à cette époque-là, c'est que Yaakov est encore seulement Yaakov. Il n'a pas encore gagné le nom de Israël. Ça veut dire que cet homme-là, lui aussi va devenir un double. S'il a deux femmes, il doit avoir au moins deux niveaux lui aussi. Un niveau qui correspond au monde matériel visible et un degré qui correspond au degré supérieur. Donc vous comprenez que Yaakov représente Léa, Rachel, et Israël représente Léa. Et donc lorsqu'on grandit, qu'on devient Israël, le jour où on revient sur notre terre, car c'est le soir où il revient sur sa terre, qu'il s'appelle Israël, ça veut dire qu'en réalité il prend conscience de quelque chose de beaucoup plus profond, qui s'appelle donc le Léa. On va continuer. Donc Yaakov ne fait que Olamot. Yaakov ne se marie pas avec deux femmes, il se marie en réalité avec deux mondes. Olam Abba. Et donc Léa, maintenant, je vous rajoute encore une couche, ça s'appelle le Olam Abba, le monde intérieur qui vient. Le monde qui vient, pas le monde futur. Le monde qui est là, mais que tu ne vois pas, parce qu'il est subtil. Olam Azé, qui c'est ce monde que tu vois, que tu peux toucher? Malchut Rachel. Rachel, la royauté. Donc vous avez en réalité un niveau de conscience qui s'appelle Léa. Et maintenant, je vais lui donner aussi une place dans le corps humain. C'est le cerveau gauche. On appelle la Bina. Bina, traduction, pas discernement, mais la femelle de Bein. Qu'est-ce que c'est Bein? Pas garçon. Bein, encre. Pas Ben. Il y a un Yud, Bein. Donc Bina, c'est voir entre les lignes. Donc Bina, c'est savoir lire entre les lignes, savoir voir comment Dieu fait avancer son histoire à travers l'information du jour. Si tu regardes la télé et que tu t'arrêtes à ce que le journaliste te dit, tu n'as vu que Rachel et même pas Rachel, ce qu'il a voulu te faire voir de Rachel. Alors que si tu es dans cette étude, tu commences à voir comment Akadosh Baruch Hu fait son travail pour nous dévoiler à travers l'histoire, car ce n'est qu'une arène, l'histoire, dans laquelle Dieu joue. Eh bien, il faut commencer à déceler. Et pour ça, il faut rentrer dans une étude plus profonde que celle que nous avons l'habitude d'étudier jusqu'à aujourd'hui. C'est très important. Ça fait des années que je vous le dis, mais c'est sûr qu'il faut continuellement le faire, pas une fois par mois. Et pas seulement avec des notions qui dépassent complètement l'entendement, parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui étudient, mais qui étudient dans des notions où il n'y a aucun rapport avec leur vie, ils ne comprennent pas. Là aussi tu tombes dans un piège, tu étudies en réalité des notions de Kabbalah, et tu ne sais même pas comment les traduire dans ta réalité. C'est pas ça l'étude. L'étude c'est de savoir prendre une notion de Kabbalah et de l'amener dans ta vie, sinon tu n'as rien fait. T'es un perroquet, tu répètes des choses et des places et des machins. C'est facile de savoir que Ari Hanpin il est là-bas et Zeir Hanpin il est là. C'est un nouveau langage, et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as prouvé que tu es un kabbaliste. Kabbaliste, c'est celui qui sait les kabbels, qui sait traduire dans son monde réel toutes ces notions qui sont supérieures.
Intégrer tout ça.
Et intégrer et digérer tout ça. Donc en réalité, Yaakov se marie avec ces deux mondes. La chen chayav gamhu liyot dmout kfula. Et donc lui aussi doit devenir un être double. Yaakov et Israël. Soulam Moussam Arsa, Verosom Adia Shamaïma. Maintenant vous comprenez ce qu'il a vu en sortant de la terre d'Israël. Une échelle dont les pieds allaient vers la terre et dont le sommet allait vers le ciel. Donc en réalité cette échelle c'était qui? C'était lui qui reliait Léa et Rachel. Am Israël, Notsa, non nous sortons de Yaakov, de Israël. Donc nous sommes le peuple d'Israël. Donc ce qui est arrivé à papa, c'est en réalité ce qui nous incombe. Ça veut dire que le peuple d'Israël, Notar, n'a été façonné que pour quoi faire les targem et à idéalim à elionim, les maaseh. Pour traduire en réalité les idéaux qu'on a appelés ici les A, en réalité concrète qu'on appelle Rachel. Les galotes babria, donc, de dévoiler dans le monde dans lequel nous sommes, et très son aboré, la volonté de celui qui a créé ce monde. Tout ce que tu fais en dehors de ça, c'est déjà dévoyé. C'est en dehors du système. Tu peux te faire des plaisirs, des machins, tout ce que tu veux, c'est bien. Mais à chaque fois que je te vois, je te pose la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire avancer ce domaine-là? Et si tu n'as pas de réponse, c'est un problème. Je vous dis ça parce que c'est la question que me pose mon maître à chaque fois qu'il me voit. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Arrête de me raconter des salades. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire le lien entre Léa et Rachel? Comment tu as fait le lien entre les mondes? C'est où l'azo? Cette action-là, Nikret Gilui Malchuto Isbarach, ça s'appelle révéler la royauté, béni soit-il dans ce monde. Et cette royauté n'apparaît pas tout de suite. Elle apparaît par étapes. Elle ne peut pas apparaître tout de suite. Vous comprenez que c'est une échelle, donc graduelle. C'est pour ça qu'on appelle l'échelle, parce que tout est graduel. C'est pas blanc et noir, on n'est pas manichéen. Et ceux qui attendent un Mashiach maintenant, comme si ça allait tomber du ciel, ce sont des enfants. Ils ne comprennent pas que c'est une étape. Or, si tu ne comprends pas que c'est une étape et tu attends une date précise, ben ça veut dire que toutes les étapes, tu les as prises pour rien du tout, ça ne vaut rien. Tu as négligé les étapes, tu n'as même pas profité de ces étapes, tu n'as même pas eu le plaisir, ou dans un langage d'aujourd'hui, tu n'as pas kiffé toutes ces étapes. Tu as perdu ta vie à attendre quelque chose. Or, ce que tu vas attendre, c'est aussi une étape, mais toi tu ne le sais pas. Quand vous parlez du Mashiach, quand le Mashiach viendra, alors d'accord. Mais tu crois que le Mashiach c'est une fin en soi? Le soir où le Mashiach va donner son premier discours, il va aller dormir, et toi aussi. Et le lendemain tu vas te réveiller, tu vas être dans une dépression totale. Les psys vont avoir un travail de folie là. Et prépare-toi, hein. Pourquoi? Parce que les mecs ils se disent, mais ça y est, on est arrivé à la fin. Mais pas du tout, t'as rien compris. Donc en réalité, quand est-ce qu'il faut prendre le plaisir de ce que tu fais? C'est pendant chaque étape, chaque pas qui t'amène à cette chose-là, il fait partie de ces choses.
Le cheminement.
Le cheminement est très important. C'est pour ça que nous faisons tfilat haderer, et pas tfilat ha-hagah. Je fais pas une prière quand je suis arrivé, je fais une prière pendant que je suis sur la route, parce que je dois voir que je suis en route. Quand vous avez un enfant, vous lui fêtez sa brit mila ou sa bar mitzvah, sa bat mitzvah. Pourquoi? Ce sont que des étapes. Pourquoi vous les fêtez? Justement pour marquer les étapes qui sont importantes dans la vie. Et c'est pour ça que nous devons voir les étapes. Et ceux qui sont incapables de voir les étapes, ils attendent une date et ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un processus. Donc ils n'ont pas d'échelle. Exactement.
Et maintenant, une petite question entre deux. Est-ce qu'il faut réconcilier Léa avec Rachel? Il faut réconcilier Léa avec Rachel ou il faut aspirer à Rachel?
Il faut
réconcilier
comprendre, il faut comprendre que Léa et Rachel ne sont qu'une seule femme. une est à l'intérieur et l'autre est à l'extérieur. Ça veut dire dans chaque femme, et dans la grande femme que nous sommes, nous avons Léa qui est notre Neshama et Rachel qui est notre corps. Ça veut dire que le corps national aujourd'hui, c'est Rachel. Et donc le fils de Rachel s'appelle Yosef. Et Yosef est en valeur numérique Sion. C'est-à-dire que le sionisme, c'est le fils de Rachel, c'est-à-dire l'aspect dévoilé de la Géoula. Et à l'intérieur se cache l'autre fils de Léa, qui s'appelle Yehuda. Et ça, c'est déjà l'aspect de l'esprit. Je n'ai pas dit spirituel. Parce que Dieu n'est pas spirituel. Si vous transformez Dieu en spiritualité, vous allez créer une religion. Ça ne veut rien dire tout ça. Il faut arrêter avec cette bêtise. Celui qui a créé le corps, c'est le même qui a créé la Neshama. Si tu ne comprends pas que le corps a son acte lui aussi, que Mashiach ben Yosef, c'est une préparation à Mashiach ben David, eh bien tu ne fais pas la réconciliation entre Yosef et Yehuda, tu ne fais pas la réconciliation entre Rachel et Léa. Rabotai, c'est ce qui s'est passé avec les frères au départ. Ils ont jeté qui ? Yosef dans le trou. C'est-à-dire l'aspect corporel, l'aspect superficiel. C'est-à-dire que là, je passe à l'autre extrémité. Tout à l'heure, je vous ai dit le danger de voir l'extérieur et de ne pas voir l'intérieur. Mais maintenant, je vous dis exactement l'inverse. C'est la même maladie. C'est de voir l'intériorité et de négliger complètement le monde de la matière. C'est la même maladie. Les uns sont complètement déconnectés, ils sont dans le ciel, et les autres sont complètement déconnectés, ils sont dans la terre tout seuls. C'est seulement si tu es Yaakov et Israël que tu fais le lien entre Léa et Rachel. Entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et quand tu ne sais pas le faire, tu jettes Yosef, ton propre Yosef dans le trou, chaque année. Et combien d'entre nous jettent leur propre Yosef dans le trou parce qu'ils négligent le côté réel.
C'est la même maladie comme ça.
C'est la même maladie. C'est la même maladie. Les uns sont complètement déconnectés du monde et les autres sont complètement déconnectés du ciel. C'est la même maladie. Et nous devons être un ciel sur terre. Léa et Rachel. Dans la Kabbalah, on dit que les pieds de Léa rentre dans la tête de Rachel. Imaginez-vous deux femmes, une sur l'autre. Léa est en haut et ses pieds pénètrent à l'intérieur de Rachel. Et c'est ces deux femmes que je dois, moi, au niveau individuel et au niveau collectif, épouser. Une femme qui sait en réalité relier mon être supérieur à mon être intérieur. Qui sait traduire les idéaux et en faire une réalité. Et si tu ne sais pas le faire, tu as un problème. Comment est-ce que Yosef traite ses frères quand il les voit en Égypte? Qu'est-ce qu'il leur dit? Meraglim atem. Incroyable. Les Meraglim, les explorateurs n'existent pas encore. Pourquoi il leur dit Meraglim atem? Yosef est en train de leur dire, les futurs Meraglim, c'est déjà vous. Pourquoi? Parce que vous avez négligé l'aspect Yosef que je suis, l'aspect extérieur, dont vous n'avez pas eu l'intelligence de vouloir entrer sur la terre d'Israël. Vous avez cru que la Torah dans le désert, ça suffisait. C'est ça le problème.
Incroyable.
Ça veut dire que tu n'as pas de jambes. Et combien sont-ils en nombre? Exactement le nombre des explorateurs dans le futur, disent.
C'est incroyable.
C'est les mêmes réincarnations, c'est-à-dire des êtres qui ne comprennent pas l'importance de la terre d'Israël, qui se disent que la Torah seule, ça me suffit, donc je peux étudier la Torah n'importe où dans le monde. Si le judaïsme est une religion, je n'ai pas besoin de terre, effectivement. Mais comme ce n'est pas une religion et que tu n'as rien compris, alors tu continues à faire ta Torah en exil. Donc tu es un meragel. Meragel, c'est un problème avec le régel, avec tes jambes. Tu n'es qu'une tête. Ah oui, c'est une tronche. Mais une tronche sans pied.
C'est pas une coïncidence qui utilise les mêmes mots.
Qu'est-ce que c'est coïncidence? C'est une collection des incidents.
C'est incroyable. C'est très beau ça.
Donc comprenez bien qu'il s'agit d'une étape, que toute la Géoula que nous sommes en train de vivre, ce sont des étapes. Et je vous ai donné la clé. Ne ratez pas ces étapes. Profitez-en. Ne dites pas, non, je veux que ça passe, je veux juste arriver à l'ultime but. C'est faux, ça. Prenez conscience de l'étape qu'on est en train de vivre maintenant et vivez-la à fond. À Malchut Akvoa, certes, nous devons aller vers une royauté qui est fixe, qui appartient à qui ? À Léa. Parce que c'est ça, la donnée supérieure qui doit finalement se révéler sur terre. Mimena Lolad Yehuda, d'elle va naître Yehuda. Yehuda, quand vous regardez son nom, vous voyez les quatre lettres du nom de Dieu, le Yud qui est évoqué. Donc c'est clair. Mais avant d'arriver à cette clarté de Yehuda, il faut que tu passes par une royauté intermédiaire, provisoire, qui s'appelle Yosef. Et Yosef, quand il sort d'Égypte, comment il s'appelle ? Yehosef. Et oui, vous le dites dans Tehilim. Yehosef samo betseto al eretz Mitzrayim. Fat lo yadati eshma. Ça veut dire quoi ? Yehosef. Regardez maintenant comme c'est beau. Sef. Ça veut dire sauf, c'est la fin. Donc c'est la lettre R. Du nom d'Hachem.
Hachem aussi, c'est la même chose.
Eh oui. Et tu as Yeho, donc les trois lettres de Yud, Kei, Vav, Kei. C'est-à-dire Yosef et Yehuda, c'est les mêmes lettres en fait. Un est codé, caché dans la matière, Yosef, comme Rachel, et Yehuda qui est clair. Mais sans passer par le monde matériel habillé, tu n'arriveras jamais à ce côté de l'esprit, à ce côté de la Neshama. Donc à Malchuta idéale, cette royauté idéale, et inam ofiamiad, elle n'apparaîtra pas tout de suite, oubliez ça. Quand vous avez un enfant, ça ne va pas être tout de suite ce que vous voulez, d'ailleurs vous ne savez même pas ce que vous voulez. Quand il naît, vous voulez qu'il soit bar mitzvah. Quand il est bar mitzvah, vous voulez qu'il se marie. Quand il se marie, vous voulez avoir des enfants. Quand il voulait avoir des enfants, vous voulez être grand-père. Quand il va être grand-père, et où tu vas ? Ça veut dire qu'en réalité, toi-même, tu ne sais même pas ce que tu veux. Alors tu sais quoi ? Profite tous les jours de lui. Vous comprenez ? Sinon vous attendez toujours quelque chose d'autre. C'est pas une vie ça. Et donc on ne vit pas le présent. On veut vivre le futur, on n'y est pas. On n'est plus dans le passé, on n'y est pas. Et si tu n'es pas dans le présent, donc tu es nulle part. Tu es mort. Or le nom d'Hachem, c'est le Yud, la Chochma dans le présent. Yud Rové. Yud Kevaske, c'est Yud Barové. C'est le Yud dans le présent. C'est extraordinaire. Donc, les Fanea Chayevet Lofia Malchut Ha'araït Ha'Shayach et Rachel. Donc, il y a une royauté provisoire qui s'appelle Rachel. Mimena Nolad Yosef. Et donc, Yosef, c'est en réalité rajouté.
Il y a Brigitte qui téléphone, je ne sais pas si ça suffit. C'est pour toi, pas Marie-France.
Brigitte Bardot.
Je peux le mettre dans l'eau.
Mais c'est incroyable, écoute, j'ai l'impression, dans ce coup que tu viens de me donner.
Attends, j'ai pas fini.
Mais il n'y a rien de mieux que ce soit interactif avec. Si ce n'est pas interactif, c'est mort. J'ai l'impression que la vanne est réhabilitée et que Léa est réhabilitée. Avant, elle était une pleurnicheuse qui était
plante. Voilà le premier degré de la Torah. C'est ça le Inyan. Si tu regardes la Torah comme un livre de Blanche-Neige et les Sept Nains, alors c'est fini, quoi. On n'a rien fait. Il y a des livres beaucoup plus beaux. Il faut arrêter. La Torah, c'est une prophétie, c'est un message qui nous est donné tous les jours.
C'est un show incroyable. Maman, le Zohar, ça ouvre les fenêtres sur beaucoup de choses.
Non, je n'ai pas encore parlé de Bilha et de Zilpa. Car en réalité, dans la Torah, nous avons une règle. Shnaim Shem Arba. Ceux qui ont étudié la Gemara savent de quoi je parle, comme les Yitziot à Shabbat. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as deux, le deux lui aussi, il se subdivise. Donc en réalité, il y a encore deux femmes qui se cachent à l'intérieur des femmes que je viens de citer. C'est-à-dire que dans Rachel et dans Léa se cachent encore une Zilpa et une Bilha.
les dimensions qui s'ajoutent.
Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Et si tu ne comprends pas cela, que dans toutes les parties de ta vie, tu as toujours Léa et Rachel, tu n'as rien compris. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous ne comprenez rien. Vous regardez la carrosserie, l'extérieur, vous ne savez même pas le Léa, donc vous regardez que le Rachel de la voiture. Il y a des gens qui s'achètent des chaussures parce qu'elles sont belles. Il marche avec 2 kilomètres, il a mal aux pieds. C'est ça tout le lien de notre vie, Rabotai. Et aujourd'hui dans la Géoula, et c'est ça le secret, c'est ça le message. La Géoula est composée, la rédemption d'Israël, la libération d'Israël est composée de 2 étages. Et t'as intérêt à marier ces 2 femmes ensemble pour bien comprendre, sinon tu vas tomber dans une dépression totale. Si tu es tiré les A tout seul, tu vas tomber dans la dépression parce que tu seras dans le ciel, rien à voir avec ce qui se passe ici. Et si tu es dans la terre sans comprendre le ciel, c'est la même chose dans une autre forme.
Pour moi, je dis tout à l'heure, Jacob, Israël, c'est les 2. Israël, c'est les 2. Ou s'il y a besoin de Jacob et d'Israël.
Il y a besoin de Jacob et d'Israël. La preuve.
Jacob,
Israël en haut. Exactement. Jacob en bas, Israël en haut. Je vais te donner la preuve. À chaque fois que Jacob se trouve en exil, comment il s'appelle? Jacob. Quand Dieu parle à Yaakov et qu'il est en exil, il appelle Yaakov. Vaidaber Hashem el Yaakov ben Marot Halayla. Dieu parle à Yaakov dans les ténèbres de la nuit, dans les visions de nuit. C'est-à-dire Yaakov, c'est l'homme de l'exil. Et Israël, c'est l'homme de la rédemption. Et il faut les 2. La preuve, c'est que en réalité, c'est une soupape de sécurité. Pour que lorsque le peuple d'Israël repart en exil, il ait aussi une survie. Comment elle s'appelle cette survie? Yaakov. La fin de ce livre de Bereshit la semaine prochaine, le Shabbat qui vient, Vayechi Yaakov Be'eret Mitzrayim. Pas Vayechi Israël. Israël ne peut pas vivre en Égypte. Yaakov, oui. Comprenez, c'est extraordinaire.
Yaakov, c'est l'adapté.
Exactement. C'est celui qui est dans le talon. Yud. Akel, Yaakov. Alors que Israël, c'est Yud, Barosh. Et c'est ça les 2 étages de l'existence. Yud, les roches, Yud, Ba'akel. Donc Yaakov et Israël. Et tu dois t'adapter, tu dois savoir cette souplesse-là. Je continue. Amalchut ha'arayit Rachel, yachana le malchut ha'kvoalea. Donc la royauté de Rachel est une préparation à la royauté fixe de Léa. Donc Aleph, Amalchuta idealit Léa, Hisodasgula. Donc la royauté idéale qui est de Léa, ma chère Ben David. On appelle dans l'hébreu la Ségula. Qu'est-ce que c'est la Ségula? La capacité de départ. Celle qu'on nous a prévue au départ. Mais Beth, Amalchuta Araït, Rachel, la royauté provisoire qui s'appelle donc Rachel, vous l'avez compris. Mechina le malchut akvoa veisod abkhira. Et ça, c'est la préparation à la royauté fixe. Et cette deuxième phase, ce deuxième degré qui est préparation, s'appelle Bechira, le choix de l'homme. Je vous résume. Léa, c'est notre monde idéal. Rachel, c'est notre monde de choisir de traduire cet idéal en réalité. Donc en réalité, qui fait le travail? Rachel. Donc Yosef, son fils. C'est celui qui va se battre, c'est celui qui va venir, c'est celui qui va fonder un état, c'est celui qui va fonder toutes les structures pour préparer au royaume messianique. Sur quoi va venir le Mashiach se déposer? Sur quoi? Sur tout ce que Yosef et le Mashiach ben Yosef aura préparé comme plateforme. Donc si on a négligé Yosef pour la jeter dans le trou, qu'on jette Médinat Israël dans le trou, c'est la même chose. Le Mashiach, sur quoi il va venir? Sur quoi il va se déposer? Il va se déposer sur la matière de Yosef. La matière de Yosef s'appelle Chomer. Donc le Mashiach s'appelle Chamor, il est Rochev al Chamor. Il va chevaucher la matière. C'est pas qu'il va chevaucher un âne comme l'autre abruti qui s'est pris un âne blanc. Mais l'autre, c'est chez les chrétiens. pour coller au texte. Vous comprenez? Il a pris un texte, il s'est dit, tiens, il y a marqué Nazareth, donc je vais aller à Nazareth, il y a marqué que dans un village, il faut prendre un âne blanc, je vais taper un âne blanc à des habitants du coin, et je vais monter dessus, on va me prendre pour le Mashiach, je vais laisser pousser une barbe, des cheveux longs, ça va être kiff. C'est pas ça, c'est des bêtises, tout ça.
Je
vais faire
ça,
ça
préparait...
Non, Yehuda, il a préparé en exil.
Oui, en
exil. Il a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a Yosef était déjà là-bas. Quand tu dis que tout le monde est en train de descendre en Égypte, qu'est-ce qui a marqué à la fin? Ve Yosef, Haya ben Israël. Yosef, il est déjà là-bas. Et quand on rentre en terre d'Israël, qui marche en premier? Yosef. Puisqu'on apporte son armoire, son cercueil en tête. Ça veut dire Yosef en réalité toujours le premier, comme je vous l'ai dit au début du cours. Et à l'entrée et à la sortie.
Précurseur.
Toujours précurseur. Dans le corps humain, représente quoi Yosef? La brite. Brit Mila. Exactement. C'est pour ça qu'un homme, quand il rentre quelque part, c'est en réalité cette partie qui rentre en premier. C'est ça le secret. C'est-à-dire que c'est la précurseur de tous les degrés.
C'est la base.
C'est la base de tout. C'est le yeso, c'est le fondement. Torah Takabala, d'ailleurs, même dans la position d'un homme, comment il se tient, on peut savoir. Et il y a des gens qui sont plus calés que moi dans ce domaine-là. Mais la manière de se tenir, là, il y a un langage corporel. Je peux savoir où tu es.
Body language.
Que? If you say.
Il y a des gens.
If you want. Ok. Torah ta Kabbalah, meyacheset l'Elea et Sfirat Abina. La Torah de la Kabbalah donc associe à Léa le monde de la Bina. Komata Neshama. Et dans l'homme, c'est en réalité l'âme. La Neshama, c'est Bina. C'est la même chose, c'est le monde de l'entre-deux. C'est le monde que tu ne peux pas appuyer en disant c'est. C'est quelque chose entre. C'est très subtil. Donc tu ne le vois pas. Il faut que ce soit le matin c'est déjà la rédemption, c'est déjà la Géoula. Vinehi Léa, tu vois que c'était Léa. Mais au départ, tu n'avais rien compris. Ou les Rachel, et la Kabbalah donne à Rachel quoi? Sfirat Amalchut Komatan Nefesh. C'est la malroute, le monde du bas, qui est la royauté dévoilée, mais qui est dans le corps humain, le nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est habillé dans le sang humain. Torah ta Kabbalah, donc, Yaakov ou Keneged Tiferet, et Yaakov qui représente en fait Tiferet qui est l'équilibre, Tiferet c'est les mêmes lettres que thérapie. Et qu'est-ce que c'est que donc la thérapie chez un homme? Le lien entre Léa et Rachel, c'est tout. Si tu n'as pas d'équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur, tu es malade. Parce que tu ne peux pas exprimer en réalité ton véritable monde. Tu as Léa et Rachel séparées, tu les as découpées, Chas v'Shalom, qui a jeté l'une d'entre elles dans un trou. Ou son fils, c'est pareil. Hashilou vazel evado, donc seulement cet accouplement, ou abonné et bet Israël. C'est ça qui construit. Qui édifie la maison d'Israël. Ou Mikan, deux lignes avant la fin, Shemichirat Yosef, c'est pour ça que la vente de Yosef, ou Be'etzel Siluk Rachel, Minabinyan, vendre Yosef, c'est en réalité écarter Rachel du film. Vous avez compris? Puisque tu as vendu son fils, c'est comme si tu as jeté la maman. Ça veut dire que tu n'as pas compris que l'aspect extérieur a une importance aussi. Si Lucas et la Malchuta Araït Mina Messiou, et d'après ce que je viens de dire, et je traduis, c'est-à-dire enlever les étapes pour arriver à une fin. C'est-à-dire que tu n'as pas la notion des étapes. Tu ne mâches plus quand tu manges. Tu avales. Qui avale sans mâcher? Esav. Al-Ite Mina, Gabmoa Minha Adon Ha Adon Hazé. Mâcher, c'est comprendre les étapes. Et quand tu mâches, la nourriture que tu intègres est beaucoup plus facile à digérer. Ceux qui avalent et qui ne mâchent pas en réalité, c'est ceux qui n'ont pas la patience des étapes. Et c'est en réalité des enfants. Chez l'enfant, c'est blanc, noir. Je t'aime, je te hais.
Les chiens mangent comme ça.
Shalom. Pnei Hador que Pnei Hakele. Donc comprenez que les étapes sont importantes, c'est pas Yoel qui le dit, c'est la Gemara de Brachot dans le Yerushalmi. Kari geulatam shel Israël, kim'a, kim'a. La geoula d'Israël, c'est un pas et encore un pas. Tiens, j'ai trouvé un shekel. Tu vois, c'est un bon signe, hein? Shekel begematria nefesh. Ça veut dire quoi? Tournez la page. Ben, oh, mes kachvaris, vous avez encore un peu de force? Mais vous arrivez en retard, alors j'ai encore quelques minutes. Au fond, ça veut dire quoi? Ceux qui jettent Rachel, ça veut dire qu'ils considèrent que Dieu est où? Dans le ciel. Notre maître qui est aux cieux, restez-y.
C'est un genre de suicide.
Exactement. C'est plus qu'un suicide. C'est un yéhouch, c'est-à-dire un désespoir que Dieu puisse faire quelque chose pour ce monde. C'est terrible. Ça veut dire qu'il n'y croit plus. Même Dieu ne peut rien faire. Et donc tu tombes dans le désespoir. Et si vous êtes désespéré parce que vous voyez à la télé, faites attention, en réalité, il y a de ça dedans. C'est comme si vous disiez, intuitivement à l'intérieur, même Dieu n'y peut rien, ils sont trop nombreux, on est foutus. Faites très attention à ça.
C'est un
yéhouch, ça. Tu vois, je t'ai fait cadeau aujourd'hui. Je me rattrape la dernière fois, tu m'as engueulé.
Non, c'est bien arrivé.
Bon, d'accord, merci. Il fait peur, moi.
C'est très bon, c'est très bon. Je suis content de ne pas avoir la tête ce coup.
Ah, moi aussi. Donc, c'est pour ça que Yosef traite ses frères de Meraglim, je l'ai dit tout à l'heure. Mais Isaac, maintenant, alors quel est le bien dans tout ça? Eh bien, le bien, c'est que cette séparation, qu'est-ce qu'elle aura fait? Qu'est-ce qu'elle aura fait, cette séparation entre les frères? Alors, elle aura... Entre les frères, ils se sont séparés. Quand ils l'ont mis dans le trou, eux-mêmes, ils se sont disloqués. Alors, qu'est-ce que ça a servi? À quoi bon? Quel est le léa de ce message? Voilà, maintenant, vous comprenez les causes.
La prise de conscience.
De quoi? Pas seulement de ce qu'ils l'ont jeté à lui, mais la prise de conscience du rôle de chacun. C'est-à-dire au moment où tu es dans la séparation, profites-en. À quoi? À réfléchir à qui tu es toi, et à qui il est lui, et à qui il est lui. C'est-à-dire que chacun en réalité va reprendre sa force. Donc même dans la séparation entre les frères, il y a eu quelque chose de bien. C'est-à-dire que chacun a pris conscience de sa spécificité.
De son rôle.
Exactement. Et chacun a une couleur, chacun a une nuance. Et s'il ne la donne pas, eh bien, chas v'shalom, on est foutu. Donc ne perdez jamais votre spécificité. Chacun d'entre nous, il est spécial pour quelque chose. Ne soyez pas la copie d'un autre. Même pas de votre rame. Faites très attention. Soyez vous-même. Et c'est là où vous apportez cette richesse au peuple d'Israël. Et une fois que chacun, par la séparation, a repris sa conscience individuelle, ils se sont regroupés, et là c'est pas un groupe qui annule en réalité l'individu, c'est un groupe qui est riche de la richesse de chaque individu. Complémentaire. Et donc, je termine. Au niveau de la Torah, vous pouvez lâcher les textes, c'est pareil. En réalité pour moi c'est juste un prétexte. Donc en réalité, Léa et Rachel, vous l'avez aussi dans votre étude. Rabotai, si vous voulez vivre, et pas survivre, les derniers moments qui sont difficiles quand on n'a pas cette étude. Déjà quand on a cette étude, c'est difficile. Quand on n'a pas cette étude, on peut tomber facilement dans une dépression, Chas v'shalom. La semaine dernière, j'ai perdu une élève à Jérusalem avec ses quatre filles. C'est mon élève. Et elle était dans un désespoir total et j'ai essayé de l'aider tant que j'ai pu. Mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Et il faut faire très attention, Rabotai. Il faut aujourd'hui être solide, être fort. Et le père hier a parlé à merveille, c'était la fin de la Shiva. Il a eu quatre filles. La première s'appelait Simcha. Et il a dit, on ne peut pas être juif sans avoir de la Simcha. La deuxième s'appelait Tehila. On ne peut pas être juif sans dire Hallel. La troisième s'appelait Tsiona. On ne peut pas être juif sans être sioniste qui revient à Sion. Et la dernière, qui en réalité s'appelait Aura, la lumière. On ne peut pas être juif sans croire en la lumière divine. Il a dit, voilà le message que je garde de mes quatre filles. En pleurant. Mais en réalité, je vous fais passer ce message, c'est la vérité. Alors, Be'ezrat Hashem, nous avons deux étapes dans ce monde. Nous avons deux étages. Un étage de l'esprit, un étage de la matière. Dans l'étude de la Torah que vous étudiez, étudiez toujours dans cette échelle. Sachez voir le texte que vous lisez, mais sachez voir ce que Dieu, l'infini béni soit-il, fait passer dans ce texte. Sinon, tu ne vois que Rachel et tu ne sais pas voir Léa. Mariez-vous avec Rachel et Léa dans tout ce que vous faites. Quand vous mangez, ne mangez pas seulement, faites une bénédiction. Le manger, la matière, c'est Rachel. Mais si tu ne colles pas Léa, la bracha dans cette nourriture, t'as rien fait. Tu es un animal. Quand vous êtes dans la semaine c'est Rachel. Voyez le Shabbat. S'il n'y a pas de Shabbat dans la semaine, vous séparez Chas v'Shalom, Shabbat de la semaine. C'est un sourd de séparer. Il faut différencier, mais jamais séparer. Abdallah, lo afrada. Amabdil ben kodesh lekro lechol, lo amafrid. Eh bien, c'est Léa et Rachel. Et je peux vous donner des exemples d'ici jusqu'à demain matin, mais vous avez compris l'essentiel. Be'ezrat Hashem, que nous puissions tous faire le lien dans notre vie entre notre Léa et notre Rachel, et nous allons voir Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Toda rabba.
Avec la vanne. Ah, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Il y a eu un peu de temps.